Ces images uniques sont le fruit des dernières technologies médicales. C'est le moment où notre vie a commencé. Notre vie est en germe souvent dès le premier regard entre un homme et une femme. C'est avec le cerveau que l'on voit. L'image visionnée est transmise dans les régions frontales du cerveau, situées au-dessus des yeux, qui décodent sa signification sexuelle. Le sang envahit alors les corps spongieux du pénis. Mais la plupart du temps, l'excitation n'est pas suivie par un acte sexuel. Le noyau côté agit comme un verrou inhibiteur.
Le cerveau intervient aussi au niveau de l'inhibition du comportement sexuel. Chez le singe, l'ablation des lobes temporaux aboutit à une frénésie sexuelle. Et chez l'homme, on sait qu'il en serait de même. En l'absence de ces verrous inhibiteurs, il y aurait un comportement sexuel sans retenue, ce que l'on appelle une hypersexualité.
Notre sexualité résulte en quelque sorte d'un conflit permanent entre les deux parties de notre cerveau qui contrôlent nos comportements. Un cerveau animal primitif, qui abrite les pulsions primaires liées à l'instinct de reproduction, et un cerveau supérieur, rationnel, façonné par l'éducation, qui régule notre comportement social. Si notre cerveau décide que la vision d'une personne nous fait du bien, les cellules nerveuses sollicitent l'hypothalamus, qui transforme alors le message nerveux en message hormonal. Un véritable cocktail d'hormones se déclenche. Leur chef d'orchestre, l'hypophyse, met en musique le ballet des hormones. Elles vont alors diffuser une sensation de bien-être et de détente à l'ensemble du cerveau et du corps par le réseau sanguin. En comparant le cerveau d'un homme à celui d'une femme, suite à une stimulation visuelle érotique, on constate que le cerveau masculin a plus de zones activées que son homologue féminin, sans que l'on puisse dire si cela résulte de l'architecture du cerveau ou de l'éducation.
Les femmes, comme les hommes, sont nées pour répondre aux stimuli sexuels. Cela ne signifie pas qu'elles souhaitent avoir une relation sexuelle, car cela dépend aussi de l'aspect psychologique et de nombreux facteurs contextuels.
Mais pourquoi tombons-nous amoureux d'une personne ? Lorsqu'une image vient frapper la rétine, des signaux sont émis vers l'arrière du cerveau où nous stockons les informations concernant notre passé sensoriel. Entre 5 et 8 ans, nous commençons à construire notre carte de l'amour, une liste inconsciente de caractéristiques physiques, comportementales et culturelles. Plus tard, si quelqu'un correspond à notre carte, l'étincelle, le flash, se produit. L'émotion provoquée par la voix, le sourire, la gestuelle du partenaire entraîne des signaux du corps plus ou moins conscients et repérables. La brillance des yeux, le gonflement des lèvres, mais aussi la sécrétion d'endorphines qui nous donne une sensation de satisfaction. La pression sanguine s'accélère et la sueur s'accroît avec la montée du désir. La testostérone des hommes se transforme en une substance chimique, l'androstérone, que la transpiration véhicule à la surface de la peau. Cette substance sera mangée par de minuscules bactéries qui émettront une odeur plus ou moins agréable. Dans Dans ces vapeurs se trouvent des phéromones inodores. Ces phéromones sont captées par notre organe voméronasal, une petite poche placée dans la paroi du nez. Cet organe primitif n'a en fait aucun rapport avec notre odorat. Il envoie directement des signaux à notre cerveau primitif, sans passer par notre cerveau supérieur. Ainsi, nous les percevons peut-être inconsciemment pour choisir un partenaire. Mais que se passe-t-il sous l'action des baisers et des caresses ?
Nous avons trouvé que les fibrocés répondent particulièrement bien à une caresse lente sur la peau et peu à une caresse rapide. Peut-être que nous avons sous-estimé le pouvoir, l'importance du contact sensuel pour notre bien-être.
Lorsque l'on stimule précisément une zone, certaines fibres nerveuses réagissent davantage que d'autres. Les fibres C agissent sur les régions du cerveau activées par l'émotion et par l'excitation sexuelle. Sollicité, le cerveau se met alors à fabriquer en récompense de l'ocytocine, une hormone souvent appelée l'hormone des câlins. Lorsqu'on tombe amoureux, notre organisme produit une hormone de la classe des amphétamines qui entraîne une suractivité. C'est la raison pour laquelle nous pouvons passer des nuits entières à parler et à faire l'amour avec la personne aimée. Avec les préliminaires, l'hypothalamus a sécrété des neurohormones qui vont exciter l'hypophyse, qui à son tour va libérer des hormones stimulant les ovaires et les testicules. Réaction en chaîne, les testicules et les ovaires vont également émettre leurs propres hormones, les androgènes et les œstrogènes. Sous leurs actions, l'afflux de sang est déclenché dans les corps caverneux et spongieux du pénis. Sur 500 millions de spermatozoïdes, un seul pourra prétendre à la victoire.
Quand l'homme éjacule dans le vagin, la plupart des personnes croient que les spermatozoïdes nagent directement vers l'œuf pour le fertiliser. Cela ne se passe pas du tout ainsi. Quand le sperme entre dans le vagin, il coagule sous la forme d'une balle ronde et molle. Il faut du temps pour que les enzymes cassent cette balle, permettant aux spermatozoïdes d'en sortir pour nager vers l'utérus.
Seul 1% des spermatozoïdes franchira le col de l'utérus au terme d'une course épuisante de 18 cm. 1000 mouvements ondulatoires pour parcourir seulement 1 cm. Pour réaliser ce marathon, les spermatozoïdes ont un secret. Leurs flagelles sont constituées d'un ensemble de brins autour duquel sont enroulées des batteries, les mitochondries, qui assurent l'énergie du premier défi. L'ovule est entraîné dans la trompe, tapissé de petites franges vibratoires qui lui permettent d'avancer. Puis il attendra un jour ou deux son marathonien. Si le rapport sexuel a lieu pendant l'ovulation, il y aura un bébé en moyenne une fois sur quatre. Car encore faut-il qu'un spermatozoïde parvienne à féconder l'ovule. Le deuxième défi du spermatozoïde est, en effet, de perforer la cuirasse de l'ovule. Pas de troisième défi pour le vainqueur. Après la pénétration, l'ovule devient infranchissable pour les autres candidats. Les deux noyaux, mâle et femelle, se rapprochent et fusionnent. L'un contient les gènes du père, l'autre ceux de la mère. Vous avez alors une chance sur 64 milliards de devenir la personne que vous êtes. Les deux noyaux entreprennent la première division cellulaire, le début de notre vie. Tout en poursuivant sa migration, l'œuf fécondé va connaître d'innombrables divisions cellulaires. Il se divise en 2 cellules, puis en 4, 8, 16 cellules, et ainsi de suite. L'embryologiste Claire Chazot travaille sur le destin des cellules.
Au départ, toutes les cellules sont identiques et au bout de quelques jours, elles vont commencer à se spécialiser. Les cellules extérieures vont s'aplatir et plus tard, elles donneront le placenta, alors que les cellules à l'intérieur restent bien rondes et donneront tous les tissus de l'embryon, tels que le cœur et le foie. Les cellules communiquent entre elles pour rester les mêmes, ou pour se différencier, par exemple en cœur ou en foie. Et elles se parlent par l'intermédiaire de milliers de récepteurs à la surface de la cellule.
Plus de 10 000 récepteurs reçoivent ainsi des messages divers. Lorsque la cellule reçoit un signal, elle synthétise dans le noyau contenant les chromosomes du père et de la mère un ARN messager très mobile. Il va permettre à la cellule de fabriquer des matériaux basés sur ces informations pour reproduire une autre cellule.
Les cellules sont-elles différentes? Dans chaque cellule, il y a un ordinateur qui sont les chromosomes. Dans chaque ordinateur, il y a tous les mêmes programmes qui sont les gènes. Ce qui va faire que les cellules sont différentes, ce sont que les programmes sont allumés ou éteints.
5 jours après la fécondation, l'embryon a parcouru la trompe et entre dans l'utérus. À ce stade, l'embryon est constitué d'une centaine de cellules. Ces cellules puisent leur énergie dans les mitochondries qui les remplissent. Les mitochondries sont à l'origine de tous nos mouvements. Elles sont la centrale électrique de la cellule. Pour se développer, l'embryon doit trouver de l'énergie ailleurs. Il y a alors rupture de sa membrane. Six jours après la fécondation, l'embryon s'enfonce dans la paroi de l'utérus grâce à des enzymes. Son implantation a déclenché la production d'une hormone qui rend le test de grossesse positif. Les premiers symptômes de la femme enceinte peuvent parfois apparaître dès le 8e jour après la fécondation. Mais pourquoi les femmes ont-elles des nausées et une attirance plus ou moins importante pour certains aliments ?
Les végétaux contiennent des toxines contre les insectes. Et nous trouvons des toxines en grande quantité dans les épices, le café et dans certains légumes verts. Instinctivement, pour protéger leur embryon et elles-mêmes, les femmes enceintes ont une répulsion envers ces produits. On a remarqué que ces toxines ne sont pas présentes dans le pain et les pâtes, et les femmes en ont alors envie. Nous allons faire un test de perception du goût, et vous indiquerez lesquels vous tentent. Allez-y.
70% des femmes enceintes deviennent plus sensibles au goût et aux odeurs. Deux femmes sur trois ont des nausées avec les odeurs de cuisine, de cigarettes, de fritures, d'épices, de café et d'alcool. Stephen Nordin a notamment démontré que les femmes souffrant de nausées ont moins de risques de fausses couches. Les nausées sont plus fréquentes entre la 5e et la 15e semaine, ce qui correspond à la période où l'embryon est très fragile.
Ces odeurs peuvent être agréables ou désagréables, et je vous demande de lever la main si vous trouvez un parfum déplaisant.
Durant les mois à venir, le corps et le métabolisme de la future mère vont profondément se modifier. Une femme enceinte est une véritable usine chimique. Elle produit en 9 mois autant d'hormones œstrogènes qu'en 150 années de vie sans grossesse. Entre la 2e et la 3e semaine, se forme une ébauche de la future moelle épinière et du système nerveux. L'embryon s'enroule sur lui-même. À la fin de la 3e semaine, l'ébauche du cœur se met à battre avec la particularité d'être le seul organe d'ores et déjà indispensable à la survie de l'embryon. Le sang commence à circuler. Au terme du premier mois de développement, l'embryon mesure environ 4 à 5 mm. Il baigne dans le liquide amniotique. Le haut de cette maquette représente les deux moitiés du cerveau de l'embryon. Elles se scindront dans quelques jours. Pendant longtemps, les scientifiques n'ont eu que ces modèles de couches de plâtre empilées pour étudier l'embryologie. Le professeur Bradley Smith a entamé depuis 1996, grâce aux techniques d'IRM, la reconstitution en images virtuelles d'embryons. Le scanner à résonance magnétique permet de voir sous la peau et d'assister à la naissance du cerveau, de la moelle épinière
et de la colonne vertébrale. Ces images permettent de détailler très précisément la chronologie du développement des organes, semaine après semaine, et constituent une base de données des plus précieuses pour les chercheurs.
On m'a souvent demandé pourquoi j'ai créé cet atlas d'embryons humains, et en réfléchissant, je réalise que de nombreux topologistes ont fait un travail remarquable pour cartographier notre planète en l'observant centimètre par centimètre. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a fait une carte des embryons. Maintenant, avec cet atlas, nous avons ces merveilleuses images qui nous permettent de voir le corps humain au premier stade et de nous observer comme nous ne l'avons jamais fait auparavant.
À 6 semaines, tous les organes d'essence commencent à s'ébaucher. Les cellules des futurs yeux se multiplient par la division et s'alignent verticalement pour former les longues fibres transparentes du cristallin. Les yeux trilatéraux sont encore sans paupières et deviennent de plus en plus visibles grâce à leur pigmentation. Le pavillon de l'oreille externe, déjà visible, sera finalisé vers 3 mois et demi. Ces cellules s'organisent, ce sont elles qui détecteront les vibrations sonores et qui les transmettront par le nerf auditif jusqu'au cerveau. La langue se hérisse peu à peu de papilles gustatives, responsables des sensations du goût. À la 8e semaine, l'embryon mesure près de 3 cm. Il prend un aspect véritablement humain, même si ses mains demeurent palmées et l'extrémité du corps se termine en queue.
Ce tout petit cœur bat donc 2 fois plus vite que celui de sa mère. C'est parce que l'embryon grandit tellement vite. Il crée des tissus, change de taille et de forme. Tout cela requiert des quantités immenses d'énergie, et la seule source d'énergie pour ce petit embryon provient du sang de sa mère.
Le cœur est le premier organe totalement abouti. Il a maintenant ses 4 chambres et ne fera que grossir dans les mois à venir. Les cellules nerveuses, jusqu'alors isolées, vont se déplacer à l'intérieur du cerveau pour prendre chacune une position précise. Elles se multiplient à raison de 250 000 à la minute. En l'espace d'une heure, le cerveau de l'embryon aura acquis 15 millions de cellules nerveuses de plus. Tous les organes indispensables à la vie se mettent en place. Le foie, immense chez l'embryon, fabrique les globules rouges avant que cette fonction ne soit reprise par la moelle osseuse. En parallèle du système immunitaire maternel, des cellules infirmières propres à l'embryon sont actives. L'endoscopie permet d'observer l'embryon
grâce à une fibre optique d'un millimètre de diamètre. Cette technique n'est utilisée que sur indication thérapeutique et dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Elle permet d'obtenir des séquences uniques de la vie in utero.
L'embryon a une capacité de développement qui est foudroyante. Il grandit de 1 mm par jour. Un fœtus, à partir du troisième trimestre de la grossesse, va grossir de 20 à 40 grammes également par jour. Et non seulement ces fœtus, ces embryons grossissent, mais leurs organes qui sont présents dès la fin de la période embryonnaire vont se transformer et changer à chaque étape de la grossesse la qualité de l'imagerie et les renseignements donnés.
L'embryon possède désormais tous ses organes et va commencer à s'agiter tout doucement, bien que ses mouvements ne soient pas encore coordonnés. Nous sommes à la 10e semaine de grossesse, l'embryon devient fœtus. Il a une apparence humaine. Dans le liquide amniotique flottent de nombreuses particules et ses urines. Ce milieu est renouvelé toutes les 6 heures. Les mains sont maintenant bien formées. La peau du fœtus est protégée contre des frottements par une substance, le vermix. Malgré ce tubercule génital, nous ne sommes pas en mesure de déterminer le sexe du fœtus. La transformation se fait à 12 semaines. Si c'est une fille, le gland devient alors clitoris et la fente de l'appendice se creuse pour laisser naître les lèvres. Chez le garçon apparaît le pénis, suivi 2 semaines plus tard par le gland et le prépuce. Il arrive alors que se produisent des érections. Les futurs spermatozoïdes sont déjà élaborés dans les testicules, tandis que les ovaires préparent leur stock d'ovocytes. 10 millions qui diminueront à 2 millions au moment de la naissance. À 12 semaines, il est encore trop tôt pour déterminer le sexe à l'échographie. En position assise, le fœtus mesure environ 10 cm. On peut donc l'observer en entier dans sa première chambre amniotique.
Ça a l'air bien. Tu penses qu'on est prêt à fabriquer la sculpture de l'embryon de madame? Je crois que oui. Je pense que tout est OK. Les mamans aiment faire une échographie. C'est la première fois qu'elles rencontrent leur bébé face à face. Mais l'échographie reste difficile à comprendre pour une mère. En utilisant les données échographiques, on peut créer une sculpture et la mère peut alors tenir son bébé dans sa main et établir un lien avec toutes les parties en développement. Elle peut commenter à ses amis, sa famille, et ceci l'aide à mieux comprendre. Dans l'avenir, nous pensons que cela pourrait devenir la routine lors d'un examen échographique où on rencontrera son bébé avant qu'il soit né.
J'ai une surprise agréable pour vous, Jenny. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sculpture de votre bébé à 12 semaines.
Nous avons utilisé les données échographiques à la 12e semaine et nous avons une machine spéciale qui fonctionne un peu comme une imprimante à jet d'encre.
C'est tellement... Je peux tenir mon propre bébé dans mes mains et j'ai la sensation de le connaître avant qu'il soit né.
Le professeur Thomas Nelson pense que cette invention pourra dans le futur révolutionner la perception prénatale.
Un fichier d'échographie peut être téléchargé via Internet n'importe où dans le monde. Nous pouvons donc imaginer un patient en Australie ou en Amérique du Sud envoyant les données échographiques à une société spécialisée qui pourra rapidement fabriquer une sculpture fœtale et la renvoyer par la poste.
Au quatrième mois, les membres s'allongent, le fœtus gesticule beaucoup, il empoigne souvent son cordon comme premier jouet. C'est aussi la période magique pour les mamans, des premiers coups de pied. Le transport de l'oxygène jusqu'aux différents tissus du fœtus est maintenant assuré par les globules rouges qui se forment dans la moelle osseuse. Sous la peau, les tissus adipeux contenant les cellules de graisse apparaissent. Ces cellules adipeuses brunes transforme la graisse en énergie afin de maintenir le corps du bébé à la bonne température. Souriez, vous êtes filmé. C'est entre la 17e et la 24e semaine que l'on procède à la deuxième échographie. À ce stade, on peut connaître le sexe de l'enfant.
Là, il compte.
1, 2, 3. Tout son père.
Au cinquième mois, tout en déglutissant du liquide amniotique, le fœtus prend de véritables expressions faciales.
Une drôle de grimace encore. Hein.
On peut appeler ça réellement une grimace, mais c'est difficile de savoir si ça correspond réellement à une manifestation de douleur. Et donc c'est là l'intérêt de l'échographie 3D qui permet de voir toutes les mimiques fœtales, que ce soit donc ces grimaces et aussi les sourires.
Devant la qualité de ces images, certaines patientes vont rechercher des ressemblances dans la famille, en particulier vont trouver le nez du grand-père, la bouche de la grand-mère, le menton d'un oncle, les oreilles du premier enfant, et vont passer en revue tout l'arbre généalogique de la famille.
D'échographie dans les albums quand on les prend, mais là la photo elle est tellement vraie. Quand vous montrez le nez comme ça, c'est exactement le même nez que son frère.
Dans les derniers mois de la grossesse, la peau du fœtus change, elle s'épaissit et se tend. Elle constitue enfin une barrière qui protège le corps de l'environnement extérieur. Les cellules adipeuses stockent de plus en plus de graisse. En 3 mois seulement, le fœtus va prendre l'équivalent de 50% de son poids de naissance. Sans pattes, ses sens s'affinent, notamment sa perception sonore.
Vous avez là le tracé cardiaque du bébé. Il est en sommeil calme, hein, il est très régulier. Donc c'est le moment idéal pour le tester. Donc on va vous demander de porter un casque, là, de le poser sur vos oreilles, qui va permettre de vous isoler des sons que l'on va envoyer au bébé.
Sur cette courbe, le professeur Caroline Granier-Defer observe les variations du rythme cardiaque du fœtus lorsqu'il est soumis à des bruits.
Vous voyez là l'émission de la petite mélodie au piano à 90 décibels. On a une jolie petite réaction d'environ moins 10 battements par minute. Donc un son un petit peu fort qui correspond à un bruit de camion.
Tous les types de stimuli sonores sont expérimentés. D'une conversation équivalente à 60 décibels au marteau-piqueur de 100 décibels. Ces expériences ont démontré qu'il faut au moins 90 décibels pour obtenir une première réaction fœtale. Car la paroi abdominale de la mère se comporte comme un filtre. Les voix, quelle que soit leur nationalité à l'exception de celle de la mère, sont inaudibles. Ces rires entendus par le fœtus sont ceux de sa mère. Un micro est placé dans l'utérus de la maman. Elle discute avec des amis. Seule la voix et les rires de la mère sont audibles, car ils passent directement par les tissus. Voici de la musique enregistrée de la même façon in utero.
Bonjour bébé, c'est papa.
1, 2, 3.
Alors le super fœtus, en fait, c'est un mythe. Ça n'a strictement aucun sens. Le fœtus, même proche du terme de la gestation, entend comme un vieillard, c'est-à-dire il est dur d'oreille. Donc c'est pas la peine de y aller lui apporter toutes ces stimulations. Ça ne sert à rien. Et éventuellement, pendant des périodes critiques du développement du système auditif, ça peut être dangereux pour le développement de son oreille.
Cette oreille reconnaît la musique et la langue maternelle entendue régulièrement in utero. La mémorisation s'est faite pendant son sommeil, car le fœtus passe 90% de son temps à dormir. L'oreille interne a deux fonctions, une fonction auditive et une fonction d'équilibre. C'est cette dernière qui nous permet de nous positionner dans l'espace. Cette expérience a démontré que le fœtus est réactif aux mouvements importants, mais pas à la marche de sa maman. Nous sommes à quelques semaines de l'accouchement. Seules ces images exceptionnelles, obtenues à l'IRM, permettent d'observer en entier le fœtus. La majorité de ses organes fonctionnent déjà. Le fœtus est doté d'un cerveau qui ne représente que 25% de sa taille adulte. En effet, la maman ne peut pas consacrer plus d'énergie pour alimenter à la fois son cerveau et le développement du cerveau de son bébé.
Proposer de consommer au cours des deux dernières semaines de votre grossesse des bonbons aromatisés à l'anis, de façon à ce que l'arôme d'anis soit transmis à votre fœtus. Allez-y, fermez-vous.
Merci.
Fermez-vous. Vous pouvez commencer à consommer.
Le but de cette expérience menée par le professeur Benoît Schall est de démontrer que le fœtus perçoit et mémorise des arômes marqués comme l'anis, le curry ou l'ail. En avalant et en inhalant du liquide amniotique, le fœtus goûte au menu de sa maman.
On peut clairement dire que l'enfant partage les repas de sa mère, sauf que lui n'a pas réellement le choix du menu, et que la mère impose réellement ses propres préférences à l'enfant. Mais plus les préférences de la mère et les choix alimentaires sont larges, plus on peut s'attendre à ce que l'enfant devienne lui-même curieux d'aliments nouveaux et de nouveautés après la naissance. Mais ça reste à être démontré.
Les 24 bébés soumis au régime d'anis in utero nous ont démontré qu'ils reconnaissent et recherchent avec plaisir cette odeur après leur naissance.
Annie aime les sucres.
sucettes. Les sucettes à la nid. Les sucettes à la nid d'Annie. Donnent à ses baisers un goût anisé.
L'expérience consiste à leur présenter à droite du visage l'odeur d'anis et à gauche un autre stimulus. Puis on mesure le temps d'orientation de l'enfant.
Bon, moi, je vois très nettement qu'il s'oriente vers la compresse anis, qu'il a plus de mouvements de recherche du côté de l'anis.
Dans le liquide amniotique, l'enfant savoure une soupe de 490 ingrédients qui sont porteurs d'odeur et de saveur.
Aïe, deux saletas.
Lorsque l'enfant passe de sa bulle de liquide amniotique au milieu aérien, il emporte avec lui cette mémoire des odeurs prénatales et s'en sert après la naissance dans son interaction avec sa mère pour se repérer contre le corps maternel et accepter de consommer le lait maternel.
À terme, lorsque les poumons du fœtus sont enfin prêts pour passer de l'eau à l'air, ils expulsent des protéines en quantité, ce sont les surfactants. Le fœtus, en régurgitant ce cocktail chimique, active les macrophages de la mère contenus dans le liquide amniotique. Ces macrophages pénètrent alors dans la paroi utérine, déclenchent son inflammation et ainsi les premières contractions.
D'une certaine façon, on peut dire que le moment de la naissance est décidé par le fœtus. La maturité de ses poumons est essentielle pour qu'il puisse passer de l'environnement aquatique à la respiration de l'air. Pendant la grossesse et tard dans la grossesse, les poumons commencent à fabriquer du surfactant, qui est une substance grasse permettant aux petits sacs d'air des poumons de rester ouverts et les empêche de se refermer sur eux-mêmes.
Il arrive que le bébé ne soit pas pressé de voir le monde. Pour le professeur Mendelssohn, le fœtus a toujours une bonne raison, notamment des poumons immatures. Les contractions de l'utérus correspondent toujours à une montée en puissance des protéines des poumons du fœtus.
Avec le premier cri, le système respiratoire du bébé est déclenché. Et de suite, la circulation sanguine s'active vers les poumons pour que davantage de sang oxygéné circule vers tous les tissus du corps. Dans les heures qui suivent, le système digestif est opérationnel.
L'acidité de l'estomac et les sécrétions apportées par le foie et le pancréas permettent déjà de réduire les grosses protéines alimentaires en molécules plus petites que l'intestin pourra alors absorber. Avec l'arrivée des premiers germes, la flore intestinale s'élabore. Peu à peu, les reins gagnent en efficacité. Quelques jours plus tard, le système immunitaire émerge. Les lymphocytes patrouillent dans les vaisseaux sanguins et éliminent les bactéries nuisibles.
Yeah.
Déjà à quelques semaines, le bébé a des préférences visuelles et olfactives. Le bébé est tout naturellement attiré par l'odeur du lait et celle de sa mère, mais également par celle de son père. On parle d'une signature olfactive de famille. Cette signature existe également chez la mère et le père, qui sont capables de reconnaître à leur tour l'odeur spécifique de leur progéniture. Mais les bébés ont aussi, en quelque sorte, le sens du beau. C'est l'expérience réalisée par le docteur Alan Slater.
Nous allons montrer à votre bébé des photos de visage pour voir s'il préfère regarder certains plutôt que d'autres.
D'accord.
Le principe est de montrer à une centaine de bébés des photos de visage considérées comme beaux ou laids selon des critères d'adultes.
Jackie, change la photo. Les nouveau-nés, même âgés de quelques heures, sont particulièrement attirés par les visages et spécialement par les beaux visages. En effet, les beaux visages se rapprochent des proportions du nombre d'or qui attirent les bébés aussi bien que les adultes. Le nombre d'or est un ratio qui remonte à l'Antiquité grecque. C'est un étalon esthétique permettant d'évaluer la beauté et l'attractivité de différents objets, car il traduit un idéal de symétrie et de proportion.
L'ensemble des neurones sont déjà présents. Bien qu'ils ne soient pas encore câblés, le bébé est pourtant déjà capable de faire des choix selon ses attirances.
Les enfants plus âgés, entre 4 et 6 ans, développent une carte de l'amour qui est plutôt culturelle. Mais elle se développe initialement à partir des capacités sensorielles du bébé. Le bébé naît avec tous ses sens et il est capable d'avoir des préférences ou des jugements, et même des jugements esthétiques sur la perception des visages.
On pense généralement que les adultes qui babillent comme des bébés sont ridicules. Rassurez-vous, il a été montré scientifiquement que les bébés préfèrent qu'on leur parle en langage bébé.
Mira, tiene la nariz de su padre.
Qué bebé tan
bonito. Haz un besito a la abuela.
Was für ein süßes Baby. Schnuckelig.
Mal dir lächelst,
der Papa.
Oh, qué lindo bebé.
Olha, está olhando a gente. Está olhando a gente.
Абсолютно.
Ой, смотрите, какой очаровательный ребенок.
Смотри, ну твои ведь глаза.
Ой, такие странные.